a-t-il un physique qui compte spécialement, Catherine?
Jeune, agréable, bien habillé.
Un petit mélange de Prisut, Dorothée Biss.
Michel Rosier. Et il y a des filles qui sont des vedettes et que vous passez pas parce que le physique ne correspond pas.
Oh oui.
Oui.
Vous dise.
Bah, Claudia en ce moment est un peu grosse. Hein.
Claudia Cardinal.
Qu'il est loin le temps où les dames du L trouvaient Claudia Cardinal trop rondelette pour la hisser en couverture. À chaque décennie, sa silhouette phare. À chaque décennie, ses visages devenus porte-étendard. Inès de la Frésange a commencé il y a presque 50 ans. C'est dire si elle a vu la mode, la publicité et la presse féminine changer. C'est dire si elle a vu les normes évoluer. C'est dire si elle a vu les mannequins passer. Et elle est restée. Mieux, elle est restée telle que Chanel la voulait, telle que les journaux étrangers la voulaient, telle que les maires de France la voulaient elle-même. Car Inès de la Frésange a sans doute été l'une des premières à faire carrière sur elle-même, c'est-à-dire bien plus que son physique, sur son nom, son rire, sa famille, ses filles, ses goûts, ses tocades, ses maisons, ses manières. À l'heure où sort en librairie un nouveau guide des trucs et astuces d'Inès, je vous en parlais tout à l'heure, et en kiosque, le journal d'Inès, question sur la vie d'une femme qui a tout ou presque médiatisée d'elle-même, bien avant les réseaux sociaux.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Inès de la Frésange.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue sur France Inter. Le journal d'Inès, c'est le 4e numéro. Il s'était arrêté pendant un an. Il ressort en kiosque et c'est un hors-série du magazine Elle. Le bonheur, c'est les autres. Guide de développement collectif et non pas personnel. Sort chez Flammarion. Genre petit cadeau de Noël, livre bonbon, hyper bien édité. C'est signé Inès de la Frésange et vos deux camarades syndiqués, Sophie Gachet et Olga Sekulic. Voilà, exactement. On va en parler ensemble, Inès de la Frésange, mais moi j'aimerais bien regarder dans le rétroviseur ces presque 50 ans de médias et de médiatisation de vous-même, parce que je trouve ça absolument passionnant. Nous sommes en 2021. Le seul métier de Kim Kardashian, c'est d'être elle-même, d'avoir le corps qu'elle a, le look qu'elle a, les quatre enfants qu'elle a, les sœurs qu'elle a, le mec qu'elle a, et de nous dire 1000 fois par jour sur les réseaux sociaux de quoi elle a envie.
I am opening up the package that comes in the mail. For the lipsticks, if this is what you get, these are my new lip liner packaging, and this is if you get all 8. Also, you can order yourself online, because I do see a lot of people saying, I wish I could buy the press box. So I'm going to open it and show you how beautiful it is inside, but you can also purchase it.
Vous avez passé du Kim Kardashian dans le texte.
Oui, mais là, justement, quand on écoute attentivement Kim Kardashian...
Et quand on parle anglais.
On s'aperçoit qu'elle ne fait pas rien. Elle non. est en train de vendre un rouge à lèvres ou un eyeliner. Je ne sais pas si c'est de sa marque ou de sa propre marque ou d'une autre. Mais bon, c'est un travail.
C'est un travail. Aujourd'hui, on appelle ça une influenceuse. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez inventé ce métier-là au XXe siècle?
Vous êtes la première à me dire ça. Et en fait, je crois que quand j'ai travaillé pour Chanel avec Karl Lagerfeld, on voulait montrer à l'époque que Chanel, ça pouvait très bien être porté par une femme des années 80, ce qui est aujourd'hui totalement évident, mais ne l'était pas à l'époque. Et donc, on avait inventé ensemble le fait d'être ambassadrice de la marque. Et c'était pas être mannequin, juste c'était parler de la marque, de l'histoire, du patrimoine, de ce qui s'y passait. Et puis, et de montrer, c'était complètement actuel. D'ailleurs, on a repris dans ce journal d'Inès une vieille photo où on me voit avec une veste Chanel et un jean et des baskets, ce qui à l'époque était inconcevable.
Et puis, il y a eu l'après Chanel, Inès de la Frésange. Il y a eu le moment où vous avez lancé votre marque, il y a eu le moment où vous êtes devenue ambassadrice pour d'autres marques, où vous avez collaboré avec d'autres marques et elles sont vraiment nombreuses. Vous avez travaillé avec Roger Vivier qui fabrique des sacs et des souliers, vous avez travaillé avec Uniqlo, vous avez travaillé avec Monoprix, vous avez eu vos propre boutique. Et tout ça s'est passé par une vaste médiatisation de vous-même. C'est-à-dire que ma mère était abonnée à Elle quand j'étais petite et moi j'ai grandi avec vous, avec les sapins de Noël que vous montriez dans votre salon, avec votre salon, avec votre maison en Provence, avec les difficultés à tomber enceinte, avec la naissance de votre première fille, avec la naissance de votre deuxième fille, avec toutes les photos de vos filles.
Mais vous saluerez votre maman.
Oui.
J'imagine qu'elle a le même âge que moi, ou elle est peut-être même un peu plus jeune. Mais c'est ça le miracle de elle, c'est que les clientes, les lectrices, je veux dire plutôt, lisent le ouais. magazine depuis des années. Et alors, c'est pas que j'ai voulu me montrer moins, c'est que quand je me suis montrée moins, je vais toujours essayer d'avoir un peu d'honnêteté, de sincérité. Et j'ai bénéficié d'une chose, c'est qu'il y a eu un moment la mode des créateurs qui a été formidable, des stylistes très 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 créatifs, mais très éloignés de la réalité et faisant des choses parfois pour les podiums plus que pour les boutiques. Et moi, j'ai jamais très bien su faire ça.
Ouais.
Et alors donc, les gens se sont toujours beaucoup plus identifiés à moi, à ma façon de m'habiller et à ma façon de vivre. J'ai toujours voulu expliquer que j'avais une vie très, 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 très favorisée, que j'en étais totalement consciente, mais que souvent, j'avais tout de même les mêmes problèmes que beaucoup de femmes. Et donc... finalement, je me suis aperçue, et aujourd'hui aussi, par exemple, si je mets une photo de moi faite par un photographe de mode, donc un tout petit peu photoshopée, très ouais. très maquillée, très coiffée et un peu habillée, j'ai pas beaucoup de likes.
Ouais, alors sur Instagram.
Sur Instagram. Alors que si je suis sur dans mon canapé en grosses chaussettes, hirsute avec
vous
mon chien.
Vous faites un tabac.
Voilà.
Parce que les gens vous retrouvent. Et alors, quelle différence
Je crois que c'est pas très, 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 très bien d'être là, trop conscient de son image et de ce que, et de ce que son image est. C'est vous qui m'obligez à le faire, hein.
Bah oui.
Mais,
Bah oui, parce que je trouve ça très intéressant parce que vous avez été pendant très longtemps une créature de papier glacée et tout ce que vous avez médiatisé de votre vie s'est passé à travers les journaux. C'est passé à travers le Elle, principalement, mais aussi le Madame Figaro, mais aussi Paris Match. Aujourd'hui, les femmes qu'on dit influenceuses et créatrices et qui font du business avec la mode et les recommandations, et ça, tout passe par les réseaux sociaux. Quelle est la différence?
Alors, il y a une grosse différence, c'est que les magazines et les journaux sont faits par des journalistes.
Hein. Oui.
Et moi, j'ai une haute opinion des journalistes, parce que c'est ce que vous avez fait, un travail de recherche. C'est un langage, des mots, c'est des coupes aussi. Il faut choisir, éliminer, mettre en avant. Puis c'est du renseignement et puis des infos vérifiées,
c'est
vrai. Et enfin bon, je vais pas vous faire
surtout,
un cours sur le journalisme.
Et puis
vous savez
surtout, c'est une médiation entre vous et le public. Alors qu'avec Instagram, il n'y a plus de médiation.
Et puis,
c'est vous en direct.
Oui, puis il y a une chose un tout petit peu plus spontanée. Je crois que le but est différent.
Ouais.
La langue est pas très recherchée. On fait des hashtags, hein. Hashtag bonheur, hashtag nourriture, hashtag j'ai beaucoup de chance, hashtag je ne sais quoi. Donc on peut pas dire vraiment que ce soit de la littérature non plus.
Alors j'ai retrouvé une interview de vous. On vous appelait au début de votre carrière le mannequin qui parle. Aujourd'hui, je trouve ça assez choquant parce que c'est une façon quand même de dire ce qu'étaient les filles à l'époque et comment on les considérait, comment on les utilisait. Le mannequin qui parle. Le mannequin qui parle était donc une des premières à faire des plateaux de télé. On est en 1983, vous venez de signer chez Chanel. Vous êtes interviewé, vous êtes l'invité du journal de 13h et vous êtes en face d'Hervé Chabalier. Écoutez les questions qu'il vous pose.
Hauteur 1m78, poitrine 85, taille 62. Deux, hanches 92, chaussures 40, cheveux châtains, yeux noisettes. Derrière ces chiffres qui manquent de poésie, même s'ils peuvent alimenter quelques fantasmes, se trouve le plus grand mannequin français actuel, un top modèle, Inès de la Fraissange. Alors le produit Inès de la Fraissange, ça coûte combien?
Ça dépend pourquoi.
Pour une heure.
Pour la publicité, c'est 6165 francs par jour.
Et ça coûte combien, Inès de la Fraissange, pour une heure? Il faut voir le petit sourire du mec en face de vous.
Ah non. Il faut pas regarder le passé avec les yeux du présent.
D'aujourd'hui.
Et Chabalier est un immense journaliste.
Ouais.
Quelqu'un de très, très, très intelligent et parfaitement respectueux. aucun rapport, mais j'ai adoré son livre, Le Dernier pour la route,
oui,
que je vous conseille vivement si vous avez des problèmes d'alcoolisme. Et alors,
ou pas, c'est intéressant.
Mais quand on disait le mannequin qui parle, ça voulait pas dire que les autres mannequins étaient idiots. Ça voulait dire que c'est pas le métier d'un mannequin de parler, et que moi, il se trouve qu'on venait me voir parce que des journaux comme Le Matin de Paris, mmh, ou ensuite Libération se sont beaucoup intéressés à ce qui se passait dans les coulisses.
Ouais, de la mode.
De ces défilés immenses. Tout d'un coup, il y avait des défilés spectacles. Et ces journaux se sont intéressés aux stylistes, aux défilés et évidemment aux mannequins. Et il se trouve que j'étais pratiquement le seul mannequin français. Vous voyez, on dit un mannequin. Le seul mannequin français à l'époque. Ensuite, il y en a eu quelques-unes. Mais donc, c'était plus simple pour eux de venir me voir, moi, puisque je parlais assez bien français. Et voilà.
Mais quand même, aujourd'hui,
et puis
on présente...
Tout d'un coup, on voulait qu'il y ait un commentaire, et que moi, j'étais d'accord pour faire un commentaire.
Et en même temps, aujourd'hui, on ne présente plus les mannequins avec simplement leur mensuration. C'est terminé. Aujourd'hui, chaque journal qui dit « voilà le mannequin qu'on a choisi », ne présente pas ses mensurations, dit... éventuellement combien elle a de followers sur Instagram.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai, ça pèse énormément.
Ouais, ouais.
Et dit que cette fille, on va vous raconter les causes qu'elle défend, parce que c'est dingue. Toutes les mannequins défendent des causes aujourd'hui. L'éducation des jeunes filles, la souffrance anime. C'en est presque ridicule. C'est-à-dire, on a l'impression que dans les agences de mannequins, on leur dit fais-toi un compte Instagram et trouve-toi une grande cause. Mais, mais il faut qu'elles aient quelque chose à dire. Il faut qu'aujourd'hui,
vrai,
les mannequins
très, très
parlent.
Ouais, ouais. Mais il faut être un peu expert en tout aujourd'hui, avoir un avis sur tout et puis être très 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 bien pensant. Et,
c'est ça.
Mais ouais, c'est vrai, les choses sont un petit peu comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, on avait tout de même des préjugés sur les mannequins. On pensait qu'elles voulaient faire un beau mariage et qu'il fallait absolument qu'elle soit la maîtresse du photographe ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et maintenant, il y avait, en plus, c'était très très mal vu en France d'être mannequin. Ça voulait vraiment dire que on était sotte, qu'on était un peu idiote.
Ouais.
Et alors, ça au moins, ça a changé. Et puis, il y a moins cette impression-là.
Et puis vous aviez un physique quand même très particulier, Inès de la Présence. Vous étiez donc très grande, 1m81, très 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 mince. Et au fond, vous correspondiez pas. Enfin, vous étiez évidemment magnifiquement belle, mais vous étiez pas vraiment dans les canons de la sensualité. Vous étiez avec toute votre aristocratie assez en retenue. Vous étiez une émanation de Chanel. Et Chanel, c'est quand même la femme qui a habillé les femmes en hommes, enfin qui les a autorisées à porter un pantalon. Donc au fond, vous n'étiez pas tellement une femme objet à l'époque, dans les photos qu'on a retrouvées.
Non, je
ne
correspondais pas. Il y a des modes dans les décennies.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à être mannequin, c'était plutôt des filles blondes avec des longs cheveux, des dentitions parfaites. Et moi, j'étais un peu atypique. Et dans ma façon de défiler, elle défilait toute avec la main sur la hanche et un air un peu dédaigneux. Moi, j'avais tendance à défiler en zigzag, en faisant des clins d'œil.
Et en éclatant de rire.
Ouais. Et puis, en fait, d'être différente, ça m'a toujours un peu réussi. Parce qu'ensuite, quand je suis devenue styliste, je faisais des vêtements aussi un peu différents. Même mes boutiques, on vendait des draps, des vêtements, des chaussures, mais aussi des carnets.
Mais du coup, vous ne regardez pas arrière en ayant des photos que vous regrettiez. Parce que j'imagine qu'on peut regretter, quand on a été mannequin, d'avoir été trop sexualisé, trop transformé en objet, etc. Vous, au fond, quand on regarde les photos d'il y a 30, d'il y a 40 ans, etc., d'il y a presque 50 ans, c'est pas le cas.
Non, je crois qu'il faut... Les mannequins doivent choisir un tout petit peu ce qu'elles veulent faire. Moi, je me souviens que mon agence, à l'époque, voulait que je fasse des catalogues en Allemagne qui rapportaient beaucoup d'argent. Et moi, je choisissais de travailler avec jeune photographe inconnu au bataillon que je trouvais sympathique, qui s'appelait Paolo Roversi. Mm. Et je croyais... D'abord, je le trouvais très, très sympathique. Et puis ensuite, je croyais en son talent. Il faut toujours décider quand même un tout petit peu de ce qu'on veut faire.
Hein. Paolo Roversi, c'est peut-être le dernier des grands géants qui est encore vivant.
Ouais, non, il y a toujours des géants, il y a des bébés géants aussi, des petits géants
Roversi
qui deviendront grands.
C'est le Panthéon.
Et il faut oser, quel que soit le métier, quelle que soit son occupation, oser déplaire, oser faire différemment et oser faire des choses pas évidentes. Prendre un risque, toujours.
Ouais.
C'est la seule chose intéressante que je puisse dire, ouais, vraiment. Ouais.
Aujourd'hui, les langues, elles se délient dans la mode beaucoup. Inès de la Frézange, il y a eu une couve de Paris Match il n'y a pas longtemps, où deux de vos consoeurs, un petit peu plus jeunes que vous, Carla Brunier et Carrie Otis, ont vraiment eu le courage de s'afficher en couve de Paris Match pour dire oui, c'est passé des choses très graves dans la mode. Mmh. Et l'enquête en ce moment sur Gérald Marie, l'ancien patron d'élite, qui a abusé de plusieurs femmes, et notamment des femmes très très jeunes, des filles très très jeunes, c'est des choses qui ressortent. Il y a des noms, ouais, de grands photographes, Mario Testino, Terry Richardson, Patrick de Marchelier, qui aujourd'hui sont montrés du doigt. En fait, on raconte ce qui s'est passé. Vous avez vu ces choses-là? Vous les avez vues?
Non,
vous les avez entendues?
Très sincèrement, j'ai pas vu et j'ai pas souffert de ça. Et j'ai eu des agents formidables. Hein, et j'ai jamais eu ce genre de problème, ni avec des photographes. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est effectivement scandaleux et insupportable, parce que ce sont des filles souvent très très jeunes qui viennent de pays étrangers. Elles parlent pas la langue. Elles dépendent entièrement de leur agence. Donc c'est parfaitement scandaleux. Mais faire des procès de gens soi-même, sans connaître les éléments, sans être au courant, on m'a sollicité, moi, pour que je vienne parler et tout. J'étais pas au courant des choses et donc j'ai refusé de faire ça, de jeter des pierres tout d'un coup sans être au courant de quoi que ce soit, ouais, de rien. C'est bien que la justice soit au courant. C'est dommage qu'il y ait des prescriptions. Pour
la plupart
cas.
Des cas. Ouais.
Et c'est dommage que ce soit pas venu plus tôt.
Ouais.
Mais alors, en tout cas, aujourd'hui, grâce à tout ce qui s'est passé, je crois que certaines femmes vont pouvoir déclarer ce qui leur arrive peut-être plus facilement. Peut-être que la police aussi,
ouais,
va
puis dire
pouvoir
non, plus
entendre
facilement.
Les choses plus
quand
facilement.
Quand vous dites qu'il faut savoir dire non.
Je crois que c'est toujours difficile pour plein de femmes. Là, on parle souvent de célébrités, mais pour des gens en province ou pas connus et tout, des femmes dans les situations difficiles, j'imagine que c'est pas évident.
J'aimerais qu'on dise un dernier mot sur cette Parisienne, un best-seller de littérature, un truc absolument dingue. C'était il y a 10 ans. Vous co-écriviez avec Sophie Gachet la Parisienne. Ça s'est vendu dans le monde entier. Ça a été traduit dans le monde entier. Et au fond, la Parisienne, elle est encore plus importante à l'étranger qu'elle n'est à Paris.
Ça, c'est très vrai.
Ça, c'est vrai aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, comme on le dit, la société change, les langues se délient, ça bouscule, ça déconstruit. Très à la mode, et on déconstruit votre Parisienne. Une Rokhaya Diallo vient faire un doc et une enquête en disant, mais la Parisienne, pourquoi est-ce qu'elle est toujours blanche, bourgeoise,
ouais,
et pourquoi est-ce qu'elle ne serait
d'accord.
pas métissée?
Non, je suis d'accord. Elle a juste pas lu mon livre, hein, parce que moi, j'ai commencé en expliquant que j'étais pas née à Paris.
Ouais.
Et puis, j'ai toujours dit que j'avais une mère argentine, une grand-mère colombienne. Je suis pas la française née en France avec que des ancêtres français. Et donc, je suis d'accord avec ça. C'est pas une bourgeoise blanche. Bien sûr que non. C'est un style, c'est un état d'esprit. Et un style et un état d'esprit, toutes sortes de femmes, de toutes sortes d'âges, peuvent l'avoir.
Ouais. Et alors, vous vous êtes bien marré à faire ce canard, là, le journal d'Inès, parce que nous,
oui,
on l'a lu au bureau, on n'a fait que rire.
Ah, vraiment?
Mais que
ça
rire.
Ça me fait plaisir.
Mais parce que vous n'arrêtez pas de donner des trucs et astuces tous plus insolites les uns que les autres, qui vous paraissent hyper naturels et qui sont partagés avec vachement de générosité. C'est ça l'idée.
Ouais.
C'est
non, de dire. Mais je voulais quelque chose de joyeux, de gai.
De très joyeux. Et de très populaire. C'est ça qui m'a étonnée. De très populaire.
Oui,
ouais.
Ben, je sais pas, j'ai fait avec Sophie Gachet, avec qui je fais les livres aussi.
Éternelle complice.
Et puis, on voulait être sincère et honnête. Et puis, on compte sur l'intelligence de nos lecteurs, hein, et sur leur sens de l'humour, de pas prendre des choses au premier degré. Parfois, aujourd'hui, les gens ont peur de faire des blagues, parce que ça va être repris sur des réseaux sociaux ou quoi, isolé du contexte. Alors nous, non, on assume.
On assume et on va interviewer Brigitte Macron, rien que ça.
Ah oui, ça c'est super scoop, parce qu'elle en fait pas beaucoup
des interviews.
Et alors, il y a aussi une interview de Valérie Lemercier, dont je suis très fière.
Merci beaucoup, oui. Inès, de la présence. Merci la mannequin vous, qui parle et qui parle bien. Très bien. Le journal d'Inès, donc hors série du magazine Elle, en kiosque. Le bonheur, c'est les autres. Ça, c'est les trucs et astuces, comme vous les connaissez depuis longtemps. Et c'est paru chez Flammarion. Ouh, c'est la fin de l'émission. Bonjour, Annie Rebéi.
Eh ben, ce matin, on s'intéresse aux addictions au cannabis, au tabac et aux médicaments antidouleurs. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.